Votre spiritualité, c'est le rendez-vous que vous donne l'imam Abdelali Mahmoud tous les jeudis et c'est la première émission du Ramadan. Alors bon Ramadan à tous.
Bonjour à tous, bonjour à toi Philippe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak Saïd, li kulli al muslimin fi masharik al ardi wa magharibiha. Je suis ravi d'être avec toi en ce jour béni du Ramadan, donc à essayer d'enrichir et de permettre aux croyants de promouvoir une élévation spirituelle en ce mois béni du Ramadan, inchallah.
Bien, on maintient les rendez-vous du jeudi, donc on va vous retrouver tous les jeudis entre 9h et 10h pour parler d'islam. Et on vous retrouve la semaine prochaine, Imam Abdelali, donc le soir pour Allo l'Imam aux côtés de Adil Farkan.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition juridique du jeûne? Qu'est-ce que ça veut dire que de jeûner?
Alors en arabe, on dit « siyam ». Siyam ou saum, c'est les deux expressions qui sont utilisées dans le Coran. Dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, il dit par exemple le Coran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Et le mot siyam là, il s'agit de l'abstinence de boire, de manger et de consommer des relations intimes de l'aube, c'est-à-dire une heure et demie avant le lever du soleil, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'on commence à voir les rayons blancs du soleil dans le ciel. Donc une heure et demie avant qu'on voit le soleil lui-même, c'est-à-dire le disque solaire apparaître à l'horizon, là à ce moment-là ça s'appelle le shuruq, donc c'est une heure et demie avant qu'on appelle le fajr, donc ce moment-là qu'on appelle le fajr est le début, c'est ce qui débute le jeûne du ramadan, dans la journée du ramadan, jusqu'au coucher du soleil. Qala ta'ala thumma atimu siyama ila al-layl, et jeûner jusqu'à la nuit. Alors, vous me direz, ouais, la nuit, est-ce que le coucher du soleil constitue la nuit? Eh bien, qu'on a interrogé le prophète, on lui a dit, ya Rasulallah, mais la nuit, ce n'est pas avec Ghurub Shams. Il a dit, quand vous voyez la nuit arriver par là, en direction, là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de l'est. En parlant, il a montré la direction de l'est, puisque le soleil s'est couché à l'ouest. Il y a encore de la lumière à l'ouest, mais il y a l'obscurité qui arrive par l'est. Eh bien, il dit qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez rompre. Et bien sûr, l'heure, c'est le Maghreb. Et nous avons l'explication pratique, celle qui a été pratiquée par le prophète Mohammed et ses compagnons. C'est que dès que l'adhan al-Maghreb a été déclenché, eh bien, ils ont rompu leur jeûne. Et ce qu'on appelle aftaro, ils ont rompu et mangé. Interrompu leur jeûne de la journée.
Alors, Imam Abdelali, c'est la tradition, on démarre l'émission par une question qui fâche. Que dit l'islam sur la GPA et la PMA? Alors, on va d'abord expliquer ce que sont la GPA et la PMA.
Alors, la GPA, c'est donc la procréation médicalement assistée pour la PMA. Cette PMA, appelée donc aussi... assistance médicale à la procréation, AMP, hein, qui désigne donc les techniques médicales qui peuvent être donc mises en œuvre dans un couple de souffrants d'une pathologie qui les empêche d'avoir des enfants normalement. Et donc, on va aider ces couples-là par une opération d'insémination in vitro ou donc en utilisant des éprouvettes, ou est-ce qu'on va inséminer, enfin féconder le sperme de monsieur avec l'ovule de madame pour donc ensuite réintégrer tout cela dans la matrice de la maman et coller tout ça bien sûr sur les parois de l'utérus et donc ainsi provoquer la grossesse en forçant les choses.
D'accord. Alors, que dit l'islam déjà sur cette revendication de femmes célibataires ou en couple de femmes qui souhaitent recourir à la PMA?
Alors, bien sûr que ça n'est pas possible, parce que ce qu'autorise l'islam, c'est l'utilisation du sperme de monsieur pour féconder sa femme, et non pas un sperme inconnu d'un personnage lambda. Sinon, là, on est dans une forme de fornication fabriquée. Puisque pourquoi Dieu a proscrit la fornication? C'est justement pour garantir la filiation, pour garantir le lien de parenté avec le père. Si on va chercher dans une banque de sperme, par exemple, ou un donneur comme ça, anonyme, ou même qui est connu, alors qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils ne sont pas donc mari et femme pour concevoir cet enfant, eh bien l'islam considère cela comme étant une forme de fornication. Donc cette fornication fabriquée par la science, eh bien elle est proscrite. Par contre, si c'est bien le sperme de monsieur, donc le spermatozoïde de monsieur, que l'on va féconder dans, avec, à l'ovule de madame, de sa femme, là, il n'y a aucun problème si on est sûr et certain que les choses se font de manière transparente et sans aucune ambiguïté et sans aucun doute. Dès qu'il y a le moindre doute, dès qu'il y a le moindre soupçon qu'il y ait eu une erreur médicale, on doit tout annuler, tout arrêter, tout jeter à la poubelle. Hein, tout ce qui a été fait doit être interrompu. Par contre, si tout est clair, tout est bien transparent, on a bien, monsieur était là, il a fait le nécessaire pour avoir donc, du sperme, qui a été mis en éprouvette, et on a utilisé ce sperme-là, que l'on a intégré dans le ventre de l'épouse, pour qu'il puisse féconder l'ovule, ou dans une éprouvette qu'ensuite qu'on a réintégrée dans le corps. Tout ça, cette PMA, cette procréation médicalement assistée, est tout à fait licite à partir du moment où on utilise le sperme de monsieur. Mais quand il s'agit de deux femmes, là, bien sûr, il n'y a pas de mari, puisque ce sont deux femmes qui voilà, ils ne peuvent pas avoir de sperme. Donc là, il y a forcément un donneur anonyme, et ça, bien sûr, ça n'est pas autorisé en islam. Pour ce qui est de la GPA, c'est la gestation par autrui, c'est-à-dire de demander à une femme, à une autre dame, de porter son enfant. Donc moi et mon mari, nous fécondons un enfant, et après l'avoir fécondé, nous le transmettons dans la matrice d'une autre femme qui, elle, est capable de porter mon enfant. Est-ce que cela est autorisé ? Aujourd'hui, jusqu'à l'instant T, toutes les instances musulmanes n'autorisent pas ce genre de pratique, même si on peut encore réfléchir à la question. Le débat sur la question est encore ouvert. Les portes de l'ijtihad et de la réflexion ne sont pas fermées totalement. Mais effectivement, jusqu'à dernière nouvelle, tous les savants qui se sont penchés sur la question ont proscrit, interdit la pratique de la GPA, tout simplement parce qu'il va y avoir une confusion entre les gènes de la mère biologique et la mère porteuse, la mère celle, puisqu'on sait que l'enfant va s'imprégner des gènes de la nouvelle mère. Donc à la fin, finalement, quand le bébé va naître, qui va être sa mère ? Est-ce que c'est la mère biologique ou est-ce que c'est la mère porteuse qui lui aussi, qui elle aussi lui transmet des gènes, qui elle aussi lui transmet son caractère, son sang, sa chair, ses tripes pendant ces 9 mois où elle va porter l'enfant, elle va transmettre quelque chose à l'enfant qui va faire que cet enfant va avoir quelque chose de sa mère porteuse. Et donc on va se retrouver avec une confusion entre une mère porteuse et une mère biologique qui est donc celle qui est à l'origine de l'ovule.
Oui.
Et bien sûr, là encore, puisqu'en plus cette femme n'est même pas l'épouse de cet homme, comment faire ? Puisque là, il y aura eu une relation finalement pareille que pour la PMA, qui n'est pas légitime. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais s'il est marié aussi avec l'autre femme, donc il est polygame et qu'il est marié avec les deux femmes, il utilise l'une d'entre eux.
Ça se complique, Imam Abdelali.
Disons, au contraire, ça facilite. Oui. Ça facilite la possibilité.
Disons que dans le cadre français, si vous voulez, ça ne facilite pas la réponse.
Non, aujourd'hui, en France, c'est interdit.
Voilà.
On sait que la GPA n'est pas autorisée.
Clair,
mais il est clair quand même, il est intéressant quand même de se prononcer, parce qu'il y a beaucoup de femmes françaises qui vont à l'étranger, en Espagne, aux États-Unis, etc.
Elles vont à l'étranger, de toute façon.
Elles vont faire porter leur enfant par une mère porteuse et confient la tâche. Il y a aussi la question du financement. C'est de vendre son corps, de louer son corps, d'une certaine manière, pour porter l'enfant des autres. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'esclavagisme ? Il y a la dignité de la femme aussi qui est remis en cause par rapport à cette question, que dans le cadre où là, effectivement, le corps de la femme, ça, du moins son utérus, ses parties génitales sont utilisées pour porter l'enfant et pour être au service d'un couple. Et là, effectivement, le fait de que cela soit moyennant finance, puisque la femme qui porte l'enfant est dédommagée, bien sûr, de plusieurs milliers, peut-être même plusieurs centaines de milliers de dollars ou euros, selon les cas. Donc c'est une question très complexe qui peut fâcher beaucoup de monde.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de débats dans la société, hein, parce que c'est une question de société et qui interroge effectivement les religions, Imam Abdelali. Pour en revenir à la procréation médicale assistée, est-ce que les personnes qui ont recours notamment à cette méthode, est-ce que ça rompt le jeûne ?
Alors, vous allez avoir le monsieur qui va être obligé d'éjaculer. Et on sait qu'une éjaculation va rompre le jeûne. Ça, c'est l'avis majoritaire écrasante des savants, qu'une éjaculation va rompre le jeûne. Donc, en ce qui le concerne, il aura rompu une journée de jeûne et qu'il faudra qu'il rattrape. Donc maintenant, est-ce qu'il a le droit de le faire ? s'il est possible pour lui d'ajourner cette opération après le Ramadan, eh bien, on va le conseiller de faire ça après le Ramadan. Maintenant, s'il n'a pas le choix, c'est la seule occasion qui lui sera, c'est la seule opportunité qu'il aura avant une date très, très lointaine de le faire, eh bien là, on peut lui accorder une dérogation pour le faire. Il rattrapera un jour de jeûne, une date ultérieure, parce qu'il s'agit bien de féconder sa femme. Il va éjaculer pour avoir du sperme pour féconder sa propre femme. Cette femme-là qui va recevoir le sperme de son mari en plein jour du Ramadan, est-ce qu'il y a là une forme de rapport intime? Est-ce que ça ne peut pas être comparable, assimilable à une relation intime en plein jour du Ramadan, qui, comme on le sait, selon la loi musulmane, impose la grande expiation, c'est-à-dire le kafaratul kubra, hein, qui est le fait de jeûner 60 jours ou de donner 60 repas à 60 pauvres. Là, je pense que non. Je suis plutôt de ces savants-là qui considèrent qu'elle n'est pas considérée comme une relation intime, puisqu'il n'y a pas orgasme, il n'y a pas, la femme n'est pas associée à cet orgasme-là.
Bien, dans un instant, Imam Abdelali, et comme chaque semaine, nous allons nous intéresser à une profession, ce sont les métiers de la médecine gynécologique, évidemment, que nous évoquons ce matin, et obstétricien. À votre spiritualité, bon Ramadan à tous. Imam Abdelali Mamoun est là. Je vous rappelle que d'autres rendez-vous sur Beurre FM, donc ce soir à partir de 20h, eh bien, on vous retrouvera, Imam Abdelali, aux côtés de Adil Farkan. J'aimerais qu'on termine sur cette première question qu'on avait posée tout à l'heure, la question qui fâche, et notamment sur ce que dit l'islam de la GPA et de la PMA.
On était sur la PMA, sur cette opération. Que si elle est réalisée en plein jour de Ramadan, est-ce qu'elle va rompre le jeûne de cette femme qui a procédé? Bien sûr, son jour de jeûne est rompu. Elle aussi, elle devra rattraper une journée. Mais là encore, pour la même raison que pour son mari, s'il n'y a pas d'autre opportunité ou l'opportunité est très éloignée, parce que les dates, les rendez-vous avec les hôpitaux pour réaliser ce genre d'opération, eh bien, est très difficile à obtenir, eh bien, ils pourront le faire pendant le mois du Ramadan s'ils n'ont pas d'autre choix. Je dis bien s'ils n'ont pas d'autre possibilité que seulement à une date qui va être beaucoup plus éloignée en dehors du Ramadan, après le Ramadan, par exemple des mois et des mois avant de pouvoir procéder à cette opération-là. Donc, et surtout parce qu'il y a une préparation, Philippe, qui est très, très lourde. Je sais qu'il doit prendre des médicaments, il doit prendre un certain nombre de substances, etc.
Il y a des préparations hormonales, effectivement.
Effectivement, des hormones qui doivent être prises pour s'assurer que la maman va être... va véritablement être capable de prendre ce bébé et de pouvoir l'assumer comme il se doit, pour pouvoir tomber enceinte et avoir un bébé de son mari. Donc là-dessus, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus souple et autoriser ces gens-là à le faire quand ils n'ont pas d'autre choix, et puis ils rattraperont un jour, après le Ramadan, ils rattraperont un jour. Bien sûr, ce jour-là, puisqu'ils ont fait ça, ils peuvent manger. Ils peuvent boire, ils peuvent ne pas le jeûner du tout. C'est-à-dire, après avoir fait ça, ils mangent, ils boivent, ils considèrent que ce jour-là est caduque et irrecevable, et donc ils la recommenceront à une date ultérieure, comme le voyageur ou comme le malade, etc. Voilà, pour ce qui est de la question de la PMA. Là, on parlait de PMA, je disais concernant la GPA, que c'était quelque chose de proscrit pour l'instant par les savants de l'islam.
Bien, alors on s'occupe maintenant, Imam Abdelali, si vous voulez bien, d'une profession, enfin deux professions d'ailleurs au regard de l'islam, les métiers de la gynécologie et de l'obstétrique.
Bah, l'obstétrique. Ce sont des médecins qui sont là pour gérer les problèmes liés aux grossesses de ces femmes, les difficultés que peuvent rencontrer des femmes qui, par exemple, ont des fausses couches, d'expliquer, de comprendre et de traiter d'un point de vue... thérapeutique, avec la pathologie du problème de la femme qui a des difficultés à tomber enceinte, c'est le rôle de l'obstétricienne qui va donc... C'est un médecin, un spécialiste, hein, c'est quelqu'un de très calé, et c'est une spécialité en médecine dans laquelle le médecin va manipuler pour souvent les parties intimes de la femme, parfois même de l'homme. Hein, ça peut arriver qu'aussi l'homme fasse l'objet... d'un suivi médical par un obstétricien ou par un médecin spécialisé dans ce genre de problèmes liés à la grossesse et tout cela. Bien sûr, la gynécologue ou le gynécologue est le médecin qui va lui suivre une grossesse normale. Il va être accompagné, s'assurer que tout va bien. Il va procéder, bien sûr, à l'analyse des radios, des échographies, etc., pour s'assurer que l'enfant n'a pas de malformation, n'est pas atteint de maladie, ni quoi que ce soit dans le ventre de sa mère, et de manière à s'assurer que l'enfant naisse dans de bonnes conditions. Et aussi, même le jour de l'accouchement, elle peut être là, la gynécologue, pour là aussi s'assurer que l'accouchement se fasse, même si c'est aujourd'hui plutôt le rôle d'une sage-femme que de faire ce travail-là. Mais parfois, il peut y avoir des gynécologues faire ce travail-là, et donc d'être là au moment de la naissance de l'enfant. Alors, bien sûr, ce travail est tout un travail extrêmement honorable, puisque c'est donner la vie. On donne la vie. Hein, le Coran est clair là-dessus. Celui qui donne la vie à une âme, c'est comme si il donnait la vie à toute l'humanité. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Donc, donner la vie et faire naître un enfant, c'est un des actes les plus nobles et les plus appréciés par Allah Azza wa Jal. Hein, de la même manière que l'acte le plus détestable, le plus réprimé par Allah Azza wa Jal, c'est d'ôter la vie, de commettre un assassinat, un meurtre envers une âme et de lui supprimer la vie. Hein, autant Dieu aime la vie et il déteste la mort. Dieu n'approuve pas et n'encourage pas ses adorateurs, ses fidèles, ses créatures à se donner la mort. C'est pour ça qu'il condamne le suicide, il condamne le meurtre, etc., etc. Donc un gynécologue qui va manipuler les parties intimes, là encore, doit être imprégné d'une morale, d'une éthique très importante. D'abord, le secret médical. En aucun cas, il est question de diffuser, de divulguer, par les mots, par des enregistrements, par des films, etc., etc. De profiter de sa position, puisqu'une femme, à ce moment-là, étant un petit peu en condition un petit peu très dévoilée, eh bien, de ne pas profiter lui-même pour abuser de l'intimité de cette femme qui donne son corps, qui donne ses parties les plus intimes à son médecin et lui fait confiance. Donc il est très important de ce médecin-là de s'imprégner d'une moralité, d'une éthique indiscutable et très rigoureuse. Donc c'est très important. Et donc pour cela, souvent, je conseille ces femmes-là de ne pas aller voir leur médecin gynécologue, même si c'est une femme, toute seule, hein, d'y aller avec soit un membre de sa famille, notamment son mari, pourquoi pas, ou d'y aller avec sa mère ou avec voilà, quelqu'un, une sœur, etc., qui peut l'accompagner. Mais bien sûr, cette sœur, par exemple, si elle l'accompagne, elle ne peut pas regarder ses parties intimes. Ce n'est pas parce qu'elle est chez le médecin qu'elle a le droit. Seul son mari a le droit de voir ses parties intimes. Sa sœur ou même sa mère ou ses parents ne peuvent pas voir les parties intimes de leur fille, puisque c'est une aura, c'est une partie intime qu'elle n'a pas le droit de dévoiler. Seul le médecin, dans un cadre de nécessité qui fait loi et qui consiste à soigner ou analyser la grossesse ou les parties intimes d'une femme, est habilité à regarder ce qui est nécessaire, sans un excès, sans abuser du regard. Donc, il est très important que les médecins, dans ce sens-là, soient là. Aussi, sur le genre, de préférence, une femme va consulter une gynécologue féminin, c'est-à-dire une femme. C'est obligatoire. C'est-à-dire que si à partir du moment où il existe une gynécologue femme, je ne peux pas, moi, musulmane, aller prendre un rendez-vous chez un gynécologue homme, puisqu'il y a l'alternative femme. Donc la priorité, c'est de demander à être consulté par une gynécologue femme. Si maintenant, il n'y en a pas, il n'y a pas de gynécologue femme, il n'y a que des gynécologues hommes. La première femme, elle est à des centaines, à des dizaines, moins une distance trop éloignée.
Elle est sur Mars ?
Non, pas forcément, mais à une distance très éloignée de là où est-ce qu'habite la personne et qu'elle n'a pas d'autre choix que d'avoir un gynécologue homme. Là, effectivement, il est possible de consulter ce gynécologue homme et de préférence qu'elle soit accompagnée par son mari ou par un membre de sa famille. Voilà pour ce qui est de l'activité de la gynécologie. Il faut savoir que pendant le Ramadan, beaucoup de femmes vont consulter leur gynécologue et qui procèdent par exemple à des frottis, à des prélèvements. Eh bien, tout cela n'annule pas le jeûne. Cette femme-là peut continuer son jeûne normalement, sauf si le médecin, la gynécologue ou l'obstétricien aura intégré à l'intérieur du corps une matière qui va rester à l'intérieur, comme par exemple du gel. Hein, et parfois, on va utiliser du gel pour fluidifier ou pour faciliter pour éviter les douleurs, par exemple, parce que tu vois, le gel va éviter cette douleur. eh bien ce gel-là qui va rester à l'intérieur du corps va rompre, va casser le jeûne de cette femme qui a jeûné cette journée-là, et elle sera obligée de le rattraper. Mais maintenant, si on rentre un objet, par exemple une tige en fer ou une tige en bois, mais qu'elle ne reste pas à l'intérieur, c'est-à-dire on va retirer l'objet, eh bien, est-ce que ça annule le jeûne ? La réponse est non. Le jeûne reste valable pour cette femme qui aura procédé à un prélèvement. Donc, on aura, avec un appareil, avec un objet, une tige en fer, etc., prélevé quelque chose à l'intérieur du corps par les parties intimes. Cela n'est pas considéré comme une relation intime. Il y a des femmes qui disent « Ouais, mais c'est comme si j'avais eu des rapports avec mon mari ». Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'annule pas le jeûne. Et cette femme-là peut continuer son jeûne comme si de rien n'était. Walhamdulillah, l'islam est très souple en la matière. Walhamdulillah. Je ne sais pas si on est encore dans les temps, Philippe. Où est-ce que tu avais ?
Non, je vous écoute. Je vous trouve tellement calé sur le sujet, Imam Abdelali.
Eh bien, écoute, non, pas forcément. Mais bon, j'ai aussi, moi, eu... J'ai une femme et j'ai été concerné par ce sujet-là. Et effectivement, on a notre propre expérience sur ce genre de questions, mais aussi sur pas mal de questions où des femmes nous présentent les choses de telle et telle manière. Et aujourd'hui, il est important...
Je ne connais pas beaucoup de femmes qui vont chez gynécologue avec leur mari, hein, Imam Abdelali.
Ah si, moi j'en connais beaucoup. En tout cas, dans la communauté musulmane, c'est très courant.
Il reste dans la salle d'attente. Hein.
Non, il rentre. Moi, il rentre, mais moi je suis rentré. Moi, je rentrais chez la gynéco, il n'y a aucun problème. La gynéco ne refuse pas le...
Non, il
porte un masque. Il porte un masque ou s'il y a besoin de plus de vêtements, de moyens de protection contre les bactéries, tout ça, ben, il va faire ce qu'il faut. Il va parfois même porter carrément la blouse. Hein.
Bon, voilà. En tout cas, c'est une question en tout cas, qui revient souvent, Imam Abdelali, qui est souvent posée. C'est est-ce qu'il faut maintenir son rendez-vous donc, chez son gynécologue pendant le mois du Ramadan ?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que s'il s'agit d'un prélèvement, un frottis par exemple, dans lequel on consiste à utiliser un instrument qui va prélever des parties intimes de la femme, on va dire des matières qui viennent de l'intérieur du corps de la femme, au niveau de l'utérus, etc., eh bien, cela n'annule pas le jeûne. Par contre, s'ils intègrent à l'intérieur, par exemple, un œuf, vous savez, les fameuses ovules, ce sont des médicaments ou des suppositoires ou des gels qui vont rester à l'intérieur du corps, ça, le jeûne va être interrompu. Elle peut quand même aller consulter, elle pourra faire ça. Mais cette journée-là sera rompue, elle devra le rattraper à une date ultérieure.
Voilà. Je rappelle que vous pourrez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali ce soir à partir de 20h. Donc allô l'imam au 01 53 48 3000. Dans un instant, restez avec nous imam Abdelali, vous nous raconterez l'histoire d'un verset. La sourate, c'est la sourate 25. Et alors aujourd'hui, vous nous expliquerez donc les sourates 27, 28 et 29. À votre spiritualité, le retour de l'imam Abdelali Mamoun après cette omra. Imam Abdelali, je rappelle que vous donnez rendez-vous aux auditeurs de Beurre FM ce soir à partir de 20h aux côtés d'Adil Farkan pour Allo l'imam. Et vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous rappelle que l'ADN est en direct, hein, c'est quand même une exclusivité Beurre FM. Donc l'imam Abdelali Mamoun, pendant tous les soirs du Ramadan, fait l'ADN en direct.
Inch'Allah.
Vous nous racontez l'histoire d'un verset aujourd'hui. Donc c'est la sourate 25 qui s'appelle le discernement. Et vous nous racontez l'histoire des versets 27, 28 et 29. Pourquoi ces trois-là d'ailleurs ?
Parce que je voulais aujourd'hui mettre en garde mes frères et mes sœurs des mauvaises fréquentations. Qu'il est important de bien choisir ses amis. Et comme dit l'expression en arabe, Ma'amen shiftek shabbatek, avec qui je vois, je te compare. Et il dit dans le hadith du prophète sallam qui dit As-sahibu, sahib wal mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil, que l'ami attire. Et que l'individu est dans la religion ou dans les convictions de celui qu'il fréquente et qu'il fasse attention à qui il fréquente, quoi, sur ses choix et ses fréquentations. Donc c'est important de savoir qui on fréquente dans la vie pour éviter de ne pas être influencé de mauvaise manière. Et donc ce verset-là est une leçon qui nous rappelle cette importance de ne pas fréquenter parce que l'individu est influençable. On peut être influencé par notre entourage, par les gens qu'on aime, par les gens qu'on apprécie, parce qu'ils ont un verbe facile, un verbe éloquent, convaincant, séduisant. Donc il est important de ne pas se laisser embobiner, parce que parfois, même si c'est éloquent et séduisant, ce n'est pas forcément toujours vrai, ce n'est pas toujours juste. Ça peut être faux et mauvais. Et donc il faut faire attention à ces gens qui peuvent nous embobiner, nous faire croire que ils sont dans le droit chemin en utilisant des belles paroles et des beaux moyens de langage pour convaincre leurs compagnons, leurs amis, leurs copains. Donc voilà, ce verset-là, c'est le verset donc, 27, 28 et 29 de Sourate Al-Furqan, en français le discernement, c'est la sourate numéro 25 du Coran. Je vais, si tu le veux bien, Philippe, réciter en arabe ces quelques versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلنا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم.
Alors, traduction.
Alors, la
Alors,
traduction.
Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager », en parlant du prophète.
Ouais. «
Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami », en parlant de Abu Jahl, il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu et le diable desserte l'homme après l'avoir tenté. Donc là, nous avons l'histoire d'un homme qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayyit. C'est un Mekwa, un Qurashi, un des hommes qui ont vécu à la Mecque à l'époque, un des contemporains du prophète alayhi salatu wassalam, et qui un jour a organisé une fête. Mais cet homme a la particularité d'être le voisin du prophète Mohammed. Et il s'avère qu'il était honteux, même si c'est ton pire ennemi, que si tu organises une fête, tu es obligé d'inviter tes amis.
Ah oui.
Ah, c'est comme ça, dans les traditions arabes.
Dans tes ennemis.
Tes ennemis, oui. Je dis tes amis, oui bien sûr, tes amis c'est facile, ses ennemis effectivement. Et donc cet homme-là, Uqba ibn Abi Mu'ayyit ibn Umayya ibn Abd al-Shams, qui est donc de la tribu des Omeyyades, a donc insisté à ce que le prophète bien sûr assiste pour que ses autres hôtes, ses autres invités ne s'interrogent pas sur le fait et ne dissimulent pas un manque de respect et un non-respect des règles et des coutumes arabes qui donc imposent et exigent à une personne qui organise une fête d'inviter son voisin le plus proche, en l'occurrence le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc le prophète est donc venu à l'invitation, elle a répondu favorablement à cette invitation, il est venu à cette invitation de Uqba ibn Abi Mu'ayyit. Mais au moment de manger, le prophète a refusé, a décliné de manger.
J'ai cru que c'était Jacques Chirac quand vous avez.
Ah ouais, c'est vrai que c'est Jacques Chirac.
J'ai cru que je voyais.
Mais tu casses tout, Philippe.
L'histoire d'un instant. Non.
Le prophète donc a décliné le fait de vouloir manger, de tendre la main sur le plat. Il lui a dit mais mange. Il a dit pourquoi? Non, j'ai dit je mange pas. Il a dit vas-y mange. Et il a refusé de manger. Il a insisté à plusieurs reprises. Et il lui a dit mais qu'est-ce que tu veux pour que tu puisses manger? Il a dit je veux que tu prononces la shahada, je veux que tu te convertisses à l'islam et à ma religion, que tu deviennes donc un monothéiste pur et que tu arrêtes d'être un idolâtre et de suivre ces mauvais compagnons que tu as, que sont notamment Abu Jahl en l'occurrence qui est ton meilleur ami. Et donc Abu Jahl qui était le pire ennemi du prophète, hein, c'était celui qu'on appelait donc de son vrai nom Amr ibn Hisham, Abu Jahl, hein, le père de l'ignorance, hein, de l'obscurantisme, Abu Jahl. Et donc cet homme-là, pour être obligé parce qu'il s'est senti obligé, que son hôte mange, le prophète en l'occurrence mange la nourriture de cet homme, de Uqba, eh bien il a été obligé de prononcer la shahada. Et les gens l'ont écouté, l'ont entendu, ils ont été dénoncés ce qu'il a fait à, bien sûr, à Abu Jahl. Et t'as vu ce qu'il a fait ton copain là, Uqba, il a prononcé la shahada, il a dit il n'y a de Dieu que Dieu, et que toutes ces idoles sont n'importe quoi, et que Mohammed est le messager de Dieu. Et donc là il est venu le voir, il lui a dit, est-ce que c'est vrai, ya Uqba, c'est vrai que tu as dit, que tu as prononcé la shahada? Et là, Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt a dit, mais je n'ai pas eu le choix. Si je ne l'avais pas fait, il n'aurait jamais mangé, il m'aurait fait honte devant mes invités. J'aurais honte. Et moi, mon honneur, elle est trop importante. Il n'est pas question que j'entame mon honneur. Et il a dit, dorénavant, aujourd'hui, tu ne me parles plus, tu ne m'adresses plus la parole, c'est quoi que tu vas lui cracher au visage. Et là, effectivement, puisqu'il il était l'ami de Abu Jahl, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le prophète et il est parti lui cracher au visage et renier la foi qu'il avait donc prononcée lors de son invitation quand il a organisé cette fête et que le prophète lui a fait dire, il lui a obligé d'une certaine manière à prononcer la shahada. Et donc à partir de là, Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset pour dénoncer ce mauvais choix d'amis et il dit qu'un jour viendra, le jour du jugement dernier, où est-ce qu'il s'en mordra les doigts. Hein, le jour où l'injuste mordra les deux mains, pour tel point, alors que normalement, seul le doigt est mordu en général. On mord son doigt de regret et de remords. Et bien là, tellement le remords est important, c'est carrément la main et les deux mains entières qui sont mordues par regret. Et il dira, hélas pour moi, seulement, si j'avais seulement suivi le chemin du messager du prophète Mohammed et que je n'ai pas eu comme ami un tel Abu Jahl, tel que Abu Jahl, qui m'a égaré, qui m'a détourné du droit chemin. Et voilà le message de cette histoire, c'est qu'il est important d'avoir dans son entourage des hommes qui nous invitent à venir à la mosquée, qui, quand on bavarde avec eux, ils parlent, ils ont des propos sains, ils ont des propos convenables et respectueux, et qui soient des gens qui vous encouragent à augmenter votre foi et non pas à vous détourner d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà la leçon de cette histoire. Et malheureusement, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayyad qui va en payer les frais le jour du jugement dernier, puisqu'il mourra dans son état de mécréance, malheureusement pour lui. Wal'iyadu billah. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette belle histoire.
On parlait tout à l'heure, Imam Delali, des métiers de l'obstétrique. Il y a une question qui revient, et c'est peut-être la question qui revient le plus pendant le mois du Ramadan, c'est la question du jeûne en état de grossesse. Alors, en l'occurrence, comment est-ce qu'on traite la question?
Eh bien, il faut consulter son gynécologue ou son médecin traitant qui va vous dire si votre jeûne est incompatible avec la grossesse. Et il faudra qu'il le justifie, c'est-à-dire qu'il donne des arguments médicaux, ou médicaux on dit. Des arguments
médicaux, s'il y en a plusieurs, on peut dire médicaux.
Ouais. Un argument médical, des arguments médicaux.
C'est pas mal.
Voilà.
Pour un début de Ramadan, je prends.
Voilà, effectivement, parce qu'on débute, hein,
parce qu'il y a les neurones qui pédalent dans la semoule.
Voilà, c'est vrai.
Et la journée n'est pas finie, ouais, même, parce qu'il va falloir aller jusqu'à 21h20.
Le matin du Ramadan, c'est pas évident. En tout cas, donc comme je disais, c'est le médecin traitant qui va vous dire si oui ou non votre grossesse est compatible avec le jeûne. Si elle n'est pas compatible, vous ne jeûnez pas et vous devez bien sûr attendre une date ultérieure après votre grossesse, après la naissance du bébé, jeûner, rattraper vos jours. Et si ce n'est pas possible, de vous acquitter de la fidia, de payer ces 5 €, l'équivalent d'un repas pour chaque jour non jeûné.
Là, finalement, vous parlez de la vie médicale et ce qui veut dire que dans ce cas-là, la vie médicale
prime
sur la vie religieuse.
Tout simplement.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'avis, religieux.
Tout simplement, c'est la vie religieuse s'appuie sur la vie médicale. C'est pas il prime, on ne va pas dire que l'un prime sur l'autre, on va dire que la vie religieuse est celui qui a été décidé par le médecin, qui bien sûr argumente. C'est pas simplement parce que, déjà c'est pas un musulman, il va vous dire, bon, qu'est-ce qu'on en a rien à faire de ce Ramadan. Allez.
Un médecin est un médecin et quand il a l'avis d'une patiente avec lui et de son enfant, il réagit comme un médecin.
Oui, à condition qu'il soit dans une démarche où est-ce qu'il n'a pas une volonté de nuire à la pratique et à la spiritualité de sa patiente. Je dis bien, donc c'est pour cela que j'exige.
Ça, c'est un débat qui revient, mais finalement.
En général, ça se passe bien.
Serment d'Hippocrate, on va dire. Voyez, ouais,
effectivement.
Il ne
peut pas utiliser son statut. Pour, par exemple, si c'est un militant islamophobe ou qui n'est pas très favorable à la pratique de l'islam, eh bien, il pourrait parfois. En tout cas, il est important, c'est d'avoir des arguments. Il explique. Il dit, voilà, madame, si vous ne buvez pas, votre bébé risque ça. Ou vous risquez ça. Hein, vous risquez une fausse couche. Vous risquez de tomber malade. Vous risquez d'aggraver votre cas. Donc, effectivement, il va expliquer, il va donner des arguments dans lesquels il va argumenter. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas donner les arguments. Mais en tout cas, il va donner des arguments médicaux pour pouvoir dire à cette femme-là de ne pas jeûner. Par contre, si elle peut jeûner, bah, le médecin lui dit « Oui, madame, vous êtes à 2 mois de grossesse, le bébé, c'est un embryon tout petit, et donc cela ne nuit pas du tout à votre grossesse. Vous pouvez jeûner, et vous avez suffisamment de réserves de graisse dans votre corps pour subvenir aux besoins de l'embryon et à vos besoins aussi. Donc, il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous jeûnez. » Je dis ça comme ça. Je dis un des arguments qui peut être tenu par un médecin qui reçoit une femme enceinte de 2 mois, par exemple, ou 3 mois. Mais au-delà, c'est vrai que ça commence à être délicat et dangereux. Il faut vraiment s'assurer que le jeûne est compatible à ce moment-là.
Imam Abdelali, alors, plusieurs rendez-vous ce soir, 20h. Donc, rendez-vous avec vous et Adil Farkan. Donc, c'est Allô l'Imam.
En tout cas, je remercie Cheikh Ismaïl Mounir qui m'a remplacé pendant toute cette période-là et qui a fait un travail magnifique, qui a assuré donc, le début de ce mois de Ramadan avec tous nos auditeurs, auditrices. Et comme on le connaît très bien, Cheikh Ismaïl est un personnage très compétent que j'aime beaucoup. Et je vous invite à ceux qui ont envie d'apprendre la religion de vous inscrire sur son institut Amin. Ça s'appelle l'Institut Amin. C'est un site, c'est un institut qui travaille par le net, qui propose des cours via le net. C'est très bien.
Ismaïl Mounir qui sera avec nous une bonne partie de ce mois de Ramadan. Et puis pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent vous poser des questions, ils peuvent le faire sur votre numéro de téléphone, Imam Abdelali.
Tout à fait. Donc le 06 29 25 35 00. Je répète, donc le 06 29 25 35 00. Si vous n'arrivez pas à me joindre tout de suite, bah vous me rappelez un peu plus tard ou le lendemain. Je finirai par vous avoir au téléphone, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir, 20h. Très bon Ramadan sur Beurre FM.